Je suis content qu'on se voit ce soir parce que j'ai des trucs à vous dire. Voilà, en ce moment, je suis avec une fille avec qui ça se passe bien.
Ah bon ?
Ça fait déjà 3 jours qu'on est ensemble et on a décidé de s'installer à la campagne.
CO2, mon amour.
Et elle est sur un coup de manoir à restaurer dans le Quercy.
Ah, c'est bien le Quercy.
J'ai des photos, je vais te montrer.
En plus, il y a du terrain, on peut vivre de l'élevage.
Ça s'improvise pas vraiment, l'élevage.
Avec Denis Chessou.
Bah, tu parles, on apprendra sur le tas. C'est la première année le plus dur. J'ai un copain qui m'a renseigné là-dessus. Lui, il faisait le porc. Les premiers mois, il a eu des cas de suicide dans le bétail. Mais après, ça s'est arrangé.
Sur France Inter.
Ah, ça s'improvise pas forcément l'élevage, on vous le confirme, le Quercy dans le Lot, c'est très très beau. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir et merci de nous accueillir peut-être en voiture actuellement. Donc évidemment, vous l'avez bien compris, faites attention sur cette route des vacances. CO2 Mon Amour, c'est votre magazine de nature et d'environnement qui va prendre le temps, comme vous, de ne pas aller trop vite avec Nicolas Delmas et Juliette Delperroux à la technique et assisté de Marion Philips et Xavier Pestugia qui réalisent l'émission. Alors je lis tout de suite, donc Pierre Rabhi que j'ai enregistré donc il y a quelques jours sera avec nous. On parlera de son histoire, de son enfance, on va dire de son histoire qui part donc de l'Algérie pour arriver jusqu'à l'Ardèche et en passant par le Burkina Faso et d'autres pays. Alors, un petit cadeau de Noël de dernière minute. Écoutez, ça vient de sortir. Il serait arrivé en Haute-Savoie dans le Chablais. Il est un peu plus grand qu'un renard, longue queue, museau pointu et pelage du loup. J'ai nommé le chacal doré. Alors évidemment, pour se faire aimer et accepter, chacal, même doré comme Julien, bah écoutez, c'est mal barré. Au catalogue des insultes, en revanche, chacal doré, ça a peut-être un bel avenir. Alors l'avenir est crédible, hein. L'affaire est crédible parce qu'il est présent depuis toujours dans les Balkans et l'ouest de l'Europe, et semble-t-il, est une nouvelle destination qui semble l'attirer. Chasseurs, naturalistes et chaperons rouges, déjà frétillent. Il manquait plus que le chacal, ce pelé, ce galeux qui hurle dans le désert. Ah bah il a rien trouvé de mieux que de venir se réfugier au pays des 1001 chasseurs de tourterelles et d'ortolans qui vont s'acharner à vouloir lui faire la peau. Chacal doré sur tranche en plus, donc une provocation bling-bling pour la misère des campagnes. Mais si cela permet peut-être à Maître Lynx, Bébert le blaireau, Yvette la belette, Renard le goupil et Isengrin le loup de souffler un petit peu à la une des gazettes, bon, allez, c'est toujours ça de gagner. Donc bon courage à cet animal au look de coyote américain, dont on ne connaît pas le comportement avec les troupeaux, et c'est sûrement pas la peine d'en rajouter, on serait bien d'accord. Donc qu'il continue simplement à poursuivre bip-bip l'oiseau malin, et ça ira bien. Et pour se faire aussi du bien, les arbres. J'ai eu la chance en début de semaine de présider le jury de l'arbre de l'année 2017 que nous avons remis avec l'ONF et Terre Sauvage. Alors vous avez eu un ifigloo à Gerberoy, un superbe chêne dans la réserve du bout du lac d'Annecy, dans une belle mise en scène calcaire au pied des Bauges, avec un houppier là, vraiment volumineux, il trônait au milieu d'une vaste prairie. Et cet arbre est aussi un peu le porte-parole de la flore discrètement jardinée par les hommes et aussi d'une minorité silencieuse comme les castors qui contemplent ce chêne sans jamais se faire les incisives dessus car ils sont très bien élevés. Et enfin, aussi, un saphora très japonica dans le parc du château de Montry en Seine-et-Marne avec une histoire humaine très intéressante. Éric de Kermel, directeur de Terre Sauvage et des magazines de territoire de Bayer Press.
Je crois que c'est un arbre qui représente bien et qui symbolise bien tout ce pourquoi on a voulu faire cette opération de l'arbre de l'année, c'est-à-dire qui raconte la relation entre les hommes et les arbres. Et en l'occurrence, ce saphora, c'est un arbre qui un jour est tombé et on aurait pu se dire, bah, puisqu'il est tombé, on va le faire disparaître. Et ben non, il a été conservé, couché au sol et il a grandi en étant couché au sol. Et c'est un arbre qui se trouve aujourd'hui dans un établissement où se trouvent aussi des jeunes qui ont été un peu accidentés par la vie. Et du coup, il symbolise à la fois la résilience de ces jeunes et puis le fait que l'un et l'autre, chacun dans nos vies, on ne pousse pas toujours droit et que ben, les arbres aussi ne poussent pas droit et ils ressemblent un petit peu aux hommes.
Alors les photos de ces vainqueurs et aussi de tous les nominés sont à retrouver dans le numéro de Terre Sauvage daté du mois de janvier. Si tes projets portent à 1 an, plante une graine. Si tes projets portent à 20 ans, plante un arbre. Et si tes projets portent à 1 siècle, éduque les hommes. Et avant de retrouver Pierre Rabhi, eh ben on va retrouver quelqu'un que l'on aime bien. Bonjour Frédéric Danvé.
Bonjour Denis Chessou.
Alors là, ça tombe bien parce que comme vous avez écrit ce très bon bouquin qui s'appelle « L'assiette est dans le pré », hein, moi je le recommande véritablement avec des illustrations de Gilles Macagnot qui sont pleines d'humour aussi, qui donnent vraiment un état des lieux de ce qu'était, ce qu'est devenu l'agriculture aujourd'hui et ce qu'elle pourrait être demain. Donc « L'assiette est dans le pré », c'est aux éditions de Lachaud et Niesley. Quelques mots donc d'actualité avec vous et de décryptage sur ces états généraux de l'alimentation. Hein, donc qui viennent de se terminer. C'était une idée au départ de Nicolas Hulot, mais qui a été bien verrouillée par Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture. Qu'est-ce que l'on peut en retenir ?
On peut en retenir pas mal de choses. Alors effectivement, il n'y a pas beaucoup d'annonces très concrètes. On renvoie tout aux discussions au sein de chaque filière. On renvoie tout à un projet de loi au premier trimestre 2018. Néanmoins, voilà, est actée une expérimentation pendant 2 ans de ce qu'on appelle le relèvement de seuil de revente à perte. C'est-à-dire que quand un supermarché achètera 100, il sera obligé de vendre à 110 pour couvrir les coûts de logistique et de transport.
Pardonnez-moi, mais ce qui est complètement dingue, c'est pourquoi en fait l'agriculture est le seul secteur où on peut vendre à perte en dessous de son prix de revient, sinon c'est considéré comme du dumping. Il n'y a pas d'autre secteur.
Il n'y a aucun autre secteur, c'est un mystère. J'ai posé la question à plein d'économistes, personne n'est capable de comprendre pourquoi, pour des produits vitaux que sont l'alimentation, les agriculteurs peuvent revendre en dessous de leur prix de revient. C'est comme ça, c'est très français. Voilà, donc également une expérimentation de l'encadrement des promotions, mais sur le fond, on ne change pas grand-chose. Il n'y a pas de remise en cause du principe intangible de la liberté de négociation. Mais quelle est la liberté de négociation quand vous avez d'un côté 450 000 exploitants agricoles et de l'autre 4 centrales d'achat surpuisantes? Ce principe de liberté n'existe pas. Et d'ailleurs, vous savez, il y avait eu un gentleman agreement qui avait été signé entre la grande distribution, les transformateurs et les agriculteurs en automne, hein, pour faire preuve de fair play. Il n'a jamais été suivi. La grande distribution fait comme d'habitude. Mais il y a quand même du positif.
Alors on écoute d'abord Nicolas Hulot et on revient avec vous Frédéric Danvé.
Il y a une première étape qui a été faite et qui, je l'espère, répond aux inquiétudes légitime et économique du monde agricole. Et cette phase s'est conclue hier, je pense, à la satisfaction d'un certain nombre de partenaires. Il y avait une deuxième phase qui essaie de répondre à une aspiration sociétale sur le mode de production alimentaire. Il y a un travail absolument exceptionnel qui a été fourni dans les différents ateliers, avec une production d'aspiration, de préconisation et un consensus merveilleux. Il y a un plan, par exemple, de sortie des phytos qui va être rendu public d'ici la fin de l'année. Il y a un plan d'organisation également pour structurer la restauration collective. Il y a des objectifs de doubler la surface utile de l'agriculture biologique. Mais la confiance se fait dans les détails et il faut maintenant que, par rapport à ce travail inédit qui a été fourni, eh bien, sa traduction politique soit à la hauteur. Il faut un peu de temps de plus.
Bah oui, bien sûr. Oui. Donc, c'est vrai que c'est très politique maintenant aujourd'hui.
Et bien sûr.
Et un peu coincé parfois aux entournures. Soit dit, ce bagarre face à des gens qui ne sont pas exactement toujours pour un véritable changement aussi radical que ça. Réchauffement climatique, agriculture, pas un mot. Là, on n'a rien eu, a priori.
Non, on n'a rien eu. Par contre, on a des mots sur la formation. On parle enfin de la formation, la nécessité de former à nouveau les agriculteurs. Et ça va même plus loin que ça. Hein. C'est la nécessité de former à nouveau les enfants à l'école et au collège via des, je cite le Premier ministre, des parcours alimentaires pédagogiques. Donc c'est ce qu'on dit dans l'émission et c'est ce que je dis dans ce livre depuis un moment. Également concevoir des programmes courts à la télé pour remettre les choses.
Parcours pédagogique sur la cuisine, sur
la cuisine, la nutrition, l'alimentation, ouais, savoir ce que c'est, ce qu'est un bon produit qui serait accompagné par un changement d'étiquetage, une expérimentation.
Alors sur l'étiquetage, qu'est-ce qu'on peut espérer ?
Eh ben on aura, vous qui nous écoutez, sur chaque produit, l'origine des produits, un étiquetage nutritionnel simplifié, pour ceux qui savent, c'est l'étiquetage Nutri-Score, et surtout, le système d'élevage, voilà comment les bêtes ont été élevées, c'était une demande des associations et des agriculteurs qui font de la qualité, eh ben ça, c'est pas mal, on va pas s'en plaindre. Une petite chose qui a été, dont personne n'a parlé, c'est aligner progressivement sur les standards européens, teneur en sucre, en sel et en gras, je cite.
Attendez, sel, sucre et gras, c'est pas neutre, je pense que je le répète.
Pas notre du tout, donc aligné sur nos standards à nous, les produits vendus outre-mer. Alors,
qui sont plus salés, qui sont plus sucrés,
qui sont de moins bonne qualité, nos amis ultramarins le savent, nos amis de métropole ne le savent pas, il y a des produits différents, des gammes différentes qui sont fabriquées par l'agroalimentaire, et bien ça, a priori, c'est fini. Maintenant, comment on va s'y prendre ? Je n'en sais rien. Sinon, sur le bio, l'objectif 8% de la surface agricole utile en 2020, qui de toute façon sera atteignable parce qu'on est déjà à 6,5, mais d'après les bruits de couloir...
Donc aujourd'hui, on a 6 6,5% de surface agricole utile.
Le gouvernement s'est engagé, dicté par la FNSEA, à 8% en 2020, ce qui est de toute façon facile. Oui, voilà.
D'après pas dire qu'une ambition...
Non, l'ambition serait un peu supérieure d'après les bruits de couloir qui sont parvenus jusqu'à mon pavillon auriculaire. Voilà, oui. On sera à 15% en 2022. Et enfin, sur la cantoche, hein, la cantine, d'ici la fin du quinquennat en 2022, on aurait 50% de produits ou bio ou labellisés ou locaux.
C'est pas pareil. Locaux, bio ou labellisés. Ça peut être aussi le tout. Hein.
Ça peut être le tout. Mais... le tout, ce serait pas mal. Alors, c'est pas parce que c'est local que c'est de qualité. On est bien d'accord. Oui. Mais bon, voilà. On se contente de ce qu'on a. C'est pas si mal.
Bon, on vous retrouve pour d'autres informations.
Mais évidemment.
Bien sûr. Vous allez écouter Pierre Rabhi.
Et puis
vous aussi. C'est pour vous qu'on a rencontré Pierre Rabhi. Si.
Deadly Valentine, ou Valentine, comme vous voulez. C'était donc Charlotte Gainsbourg sur France Inter, choisie par Muriel Pérez, notre programmatrice.
Les oiseaux sont les gardiens du temple, tu comprends? Tu vois, si je pose ma main sur la branche d'où vient de s'envoler cet oiseau, eh bien je me sens relié à lui.
CO2, mon amour.
En réalité, le pied de l'arbre, c'est sa tête. C'est un être inversé. Les branches sont ses racines. Elles plongent dans le ciel. Dans le végétal, il y a toute la mémoire de l'univers. Vous êtes une partie de cet univers.
Sur France Inter.
Et les oiseaux s'échangent, les arbres s'échangent des oiseaux, justement, pour faire chanter la vie. Un qui le fait bien aussi, donc, c'est Pierre Rabhi, que j'ai eu la chance de retrouver, il y a quelques jours. Et Pierre Rabhi, vous avez un ouvrage qui est très intéressant, c'est La période de Noël, aux éditions Plume de Carotte, qui s'appelle L'enfant du désert, et qui raconte son histoire. Je me suis rendu compte que peut-être on connaissait pas forcément son histoire. On connaît évidemment sa pensée, maintenant beaucoup plus, mais c'est ça qui était intéressant. Alors, avec cet enfant du désert, cher Pierre Rabhi, d'abord, on avait commencé par un
bonjour, ce qui est normal, mais que vous a appris en fait le désert du village algérien où vous êtes né en 1938.
Bonjour Denis.
Alors ce qu'il faut savoir, que cette oasis a été fondée par ce qu'on pourrait appeler un thaumaturge, c'est-à-dire un soufi. Et les soufis ont une caractéristique, c'est qu'ils sont non-violents. Et alors la cité qui a été créée au milieu de ce désert avait un tempérament, on pourrait dire, le tempérament de cette cité était très très influencé par l'âme du fondateur qui lui était un non-violent radical. Et ça se sentait un petit peu dans l'ambiance générale.
Alors des briques de terre crue, décrivez-nous un peu ce village.
Le village, c'est une cité, c'est plus qu'un village, c'est déjà dans une dimension d'une cité, avec qui apparaît évidemment, c'est la domination d'un minaret blanc qui est au sud d'une zaouïa, c'est-à-dire d'un lieu qui était un lieu où vivaient les descendants du thaumaturge, le fondateur, et qui veillait évidemment sur les préceptes et les principes du fondateur, à savoir la non-violence.
Ça veut dire que cet aspect non-violent, bien sûr, vous l'avez travaillé, j'allais dire, avec les écrits de Gandhi, mais vous l'avez aussi, au départ, vécu sur place.
Je vivais dans l'ambiance d'un enfant qui vivait ce qu'il avait à vivre dans le lieu, avec un père musicien, orphelin de mère, malheureusement, très tôt. Oui. Et ce qui aura un impact évidemment très très important sur le restant de mes jours, jusqu'à 80 ans, où je suis aujourd'hui, sans savoir ce qui me reste sur mon compte. Et tout ça évidemment a participé à modeler un petit peu mon approche de la vie, ma perception de la vie, ma philosophie de la vie. Je pense que ça y a participé, sans que je sois en mesure à l'époque, d'en donner une description qui serait une description rationnelle.
Et à cette époque, avec les cinq membres de votre famille, plus votre père, votre grand-mère et votre mère que vous avez perdue jeune, vous appeliez Rabat. Vous n'étiez pas encore Pierre à cette époque-là.
Non, oui, je m'appelais Rabat, c'est-à-dire ou le victorieux ou le gagnant. Enfin, peu importe, donc Rabat, c'est déjà le gagnant.
Oui.
Et Rabat, c'est le victorieux, donc je suis quand même bien loti.
Votre père, c'est vrai qu'il était forgeron, il était poète, il était musicien. Et puis, sont arrivés, on va dire, les mines de charbon.
Oui.
Et là, donc, les Blancs, les Roumis, donc, on dit, attendez, vous allez avoir une vie meilleure les uns et les autres.
Oui.
Et c'est là que vous vous êtes rendu compte que votre père, donc, allait perdre pratiquement jusqu'à sa dignité, quoi, mais aussi oui. En descendant dans ces mines.
Il a eu la chance d'être assez astucieux en mécanique, ce qui fait qu'on lui a confié un locotracteur, parce qu'il était en autodidacte, il savait faire de la mécanique sans être passé par quoi que ce soit, par une école ou quoi que ce soit, c'est simplement l'observation et l'habileté. Et donc, on lui a épargné, disons, le fond, le mineur de fond, pour être un conducteur de locotracteur. Mais avec une réflexion qui était extrêmement profonde, c'est-à-dire, c'en est fini de nos valeurs, et des valeurs fondamentales sur lesquelles on a construit notre mode d'existence, puisque maintenant, les Européens ont les pleins pouvoirs sur notre destin. Et pour cela, il faut pas que nous soyons ignorants des préceptes et des credos de ce monde-là. C'est pour ça que j'ai été confié assez jeune à une famille de Français, un ingénieur et une institutrice, pour être initié justement à la modernité.
Ça n'a pas été forcément très très simple, hein. C'est moins compliqué, parce que là c'est un véritable changement de culture qui s'est opéré. Vous êtes passé en fait des écrits coraniques à la chrétienté, vous êtes passé une autre forme dite de modernité. Alors comment on s'est adapté? Parce que il y avait aussi cette culture, lorsque l'on avait un corps qui était sec et mince, ça voulait dire que c'était la frugalité. Chez les Européens c'était un signe de mauvaise santé, enfin donc il y avait des tas de choses qui ne s'emboîtaient plus.
Non, parce que cet enfant que j'étais, qui passait d'une société avec ses valeurs à une autre société avec ses valeurs, a très très tôt été en quelque sorte confronté à ces contradictions. Le démarrage est très difficile. Je m'intéresse beaucoup, de plus en plus, aux philosophes, pensant que les philosophes allaient me tirer d'affaire, et en me donnant un sens à la vie que je cherchais. Du point de vue scolaire, je faisais pas d'étincelles, mais enfin, je suivais comme je pouvais. Et puis, la fréquentation des philosophes finalement m'a révélé que les philosophes n'étaient pas non plus d'accord, qu'il n'y a pas une philosophie qui fait l'unanimité. Et finalement, ce qui m'a paru le plus juste, c'est Socrate quand il a proclamé que tout ce qu'il savait, c'est qu'il ne savait rien. Et j'en suis resté là, et j'en suis encore aujourd'hui là.
Il y a une dispute aussi avec votre père adoptif, là vous êtes séparés. Vous avez travaillé dans une banque, là vous avez bien vu aussi à la fois la misère et la richesse, l'argent rare et puis l'essentiel pour les autres. Après vous êtes parti en France et là vous êtes devenu ouvrier.
Oui.
Et alors là c'était évidemment le choc parce que vous aviez compris qu'il n'y avait pas de chaleur humaine. La contemplation, on s'en fichait. On vous demandait d'être producteur et consommateur et pas forcément d'être un être humain. Là c'était un véritable choc.
Oui, c'est-à-dire que j'ai essayé de comprendre en quoi consistaient les fondements du paradigme technico-scientifico, enfin, etc., tout ce qui était proposé en termes prométhéens. C'est-à-dire qu'on passait d'un être humain qui était plus ou moins en harmonie avec les lois de la vie, les lois de la nature, à une société dans laquelle on passe du cheval animal au cheval vapeur, pour ne donner que cette illustration. Et le cheval vapeur amène donc une civilisation absolument inédite depuis les origines connues. Jamais, 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 l'humanité n'a instauré un système dans lequel la combustion devient la principale énergie. Et à partir de ce moment-là, on rentre à la fois dans la modification des capacités humaines qui sont décuplées par la mécanique, et à la fois on rentre dans une modification du temps, puisque ne serait-ce que si on prend cette translation qu'on peut avoir sur Terre de s'acheminer d'un endroit à un autre, on avait jusque-là que ses jambes ou le cheval. Et puis quand on passe au cheval vapeur, donc avec la vitesse, ça modifie à la fois la perception du temps et ça modifie la perception de l'espace. C'était déjà la naissance de cette frénésie dans laquelle il faut couvrir des espaces importants en très peu de temps. Et du coup, ça a introduit une civilisation du temps argent et du temps qu'il ne faut jamais perdre. Et dès qu'on perd du temps, c'est-à-dire que c'est presque un délit que de perdre du temps, il faut toujours en gagner. Et du coup, on est dans une civilisation qui est très très difficile à assumer.
Alors, dans cette frénésie, un peu de douceur, un peu de fraîcheur, vous rencontrez votre épouse, Michel, et puis là, vous avez ce rêve commun, on va quitter la ville. Et là, vous êtes assez jeune, hein, l'un et l'autre, et vous dites, on va aller cultiver de la terre pour se nourrir. Et à une époque où c'était absolument l'inverse, c'est-à-dire que le progrès, c'était l'industrialisation, la consommation, c'était la chanson de Ferrat, hein, c'était la montagne, hein, c'était vraiment ça.
Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver?
Alors, il y a eu l'aide d'un homme formidable qui s'appelle le docteur Richard, et vous êtes arrivé sur cette ferme de Montchamp, et vous dites qu'en fait, elle vous attendait pratiquement cette ferme, Pierre.
C'est-à-dire que nous décidons de retourner à la terre. D'abord, évidemment, c'était à une époque où c'était absolument pas concevable, puisque c'était le contraire. C'était aller à la ville qui était valorisant. C'était pas retourner à la terre, puisque la terre, on l'abandonnait. Nous n'avions pas le moindre centime pour acquérir quoi que ce soit. Et on m'apprend que je pouvais faire un emprunt au Crédit Agricole. Alors bon, je vais au Crédit Agricole en disant, voilà, je voudrais m'installer à la terre. Et on me dit, oui, mais est-ce que vous savez travailler la terre? Ben non, donc allez apprendre, et puis on discutera après. Alors apprendre, c'était pour moi passer par une école élémentaire d'agriculture, et ce qui était exigé aussi dans les critères, c'était que j'ai des pratiques agricoles. Je deviens ouvrier agricole, et je travaille pendant 3 ans dans des fermes, et avec l'attestation de mes patrons, je réunis le dossier qui était présentable au Crédit Agricole. Et à ce moment-là, on me dit, est-ce que vous avez trouvé le lieu? J'ai dit oui, j'ai trouvé le lieu. Et puis on me dit, bon, ben, décrivez-le, quoi. Est-ce qu'il y a de l'eau? Ah ben, il n'y a pas beaucoup d'eau.
Non,
il
n'y a pas d'électricité.
La terre est comment?
C'est un tas de cailloux.
Il y a beaucoup de cailloux. Le chemin, il est à peine praticable.
Oui, bien sûr.
Il n'y a pas de téléphone.
Oui, ça rassure un banquier tout de suite.
Il n'y a pas d'électricité. Alors, le préposé...
Blémi.
Mais dit, monsieur Rabhi, on ne peut quand même pas vous prêter. Parce qu'en vous prêtant, on commet un délit. On va vous aider à vous suicider. Jamais vous ne vous en sortirez dans ces conditions-là. Mmh. Alors, c'était très difficile de dire à l'agence du Crédit Agricole, ce choix a été fait parce que le lieu est beau. Ce qui a remporté, en quelque sorte, notre désir, oui. C'est la beauté du lieu. Oui. Et ça, on ne le dit pas à l'agence du Crédit Agricole.
Elle s'en fout.
Mais c'était ça.
Vous pouvez lui dire, il y a 17 clochers merveilleux qui nous entourent.
17 clochers, même 19, je crois.
Silence
total, un bois magnifique. Et on s'est dit, puisque nous sommes là, bah forcément, on va y mettre toute l'énergie qu'il faut pour survivre.
Mais alors vous en êtes sorti.
C'est ce qui s'est passé.
Ouais, vous en êtes sorti quand même. Vous êtes devenu maçon, vous êtes devenu plombier, électricien. Michel, votre épouse, donc, a été enseignante. Vous avez fabriqué donc des fours à briques. Vous avez fabriqué des bijoux, des statuettes que vous avez vendues.
Alors, je rends hommage aussi à Michel. Et je me suis trouvé avec une femme. Heureusement, on était dans une adhésion totale à tenter cette expérience. Pour une femme, il fallait quand même énormément de détermination. Avec les 5 enfants qu'elle a assumés et qu'on a assumés. Sans cela, ça n'aurait pas été possible.
Ben, j'espère que ce cadeau, on va dire, de Noël avec Pierre Rabhi vous fait plaisir. On va bien sûr le retrouver dans quelques instants. On parlera d'agroécologie, on parlera de bio, de tout le travail qu'il effectue aussi au Burkina Faso. J'espère que vous êtes bien. Vous êtes sur France Inter, c'est Haut de mon amour. Et on poursuit avec qui? Allez, Francky, on y va.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessoux sur France Inter.
You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. He's gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and he's checking it twice. He's gonna find out who's been naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
Mais oui, Santa Claus, il arrive en ville, c'était Frank Sinatra sur France Inter. Faites attention, peut-être vous allez le prendre en stop. Après tout, l'empreinte carbone des rennes, c'est pas mauvais, hein, je crois.
Ça dépend de ce qu'ils ont mangé.
Ouais, mais vous êtes un rabat-joie, vous. Non, et ça suffit. Bon, alors, donc, on va continuer. On va se rejoindre Pierre Rabhi avec donc, cet ouvrage. Hein, vraiment, c'est pour les enfants à partir de 8 ans. Ah oui, il faut savoir lire quand même. Ah bah oui. Pierre Rabhi, l'enfant du désert aux éditions Plume de Carotte. Et puis, on va entendre aussi une femme qui s'appelle Juliette Duquesne qui a écrit des carnets d'alerte avec lui sur les excès de la finance et les semences. Et là, bah, on part vraiment, on a parlé du bio, on continue à en parler avec Pierre Rabhi.
À l'époque, on ne parlait pas d'agriculture bio. J'ai appris que l'agriculture était... Il y avait des aspects très nocifs de l'agriculture quand j'ai été ouvrier et qu'on utilisait beaucoup de produits chimiques qu'on mettait dans le sol avec lesquels on traitait les végétaux.
Et vous lisez un livre, La fécondité de la terre, d'un scientifique allemand.
Oui.
Alors là, il y a une bascule qui s'opère. Je veux dire, votre amour de l'humus dont vous parlez très fréquemment et des lombrics, vraiment s'amplifie. Et là, vous travaillez vraiment ces cailloux. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier compost ?
Oui, je me souviens bien. Disons, bon, c'était le compost d'un amateur, bien sûr. Au départ, j'essayais d'appliquer les règles. La biodynamie, par exemple, qui est une agriculture complète, puisque dans la biodynamie, qui est issue, disons, de la pensée de Rudolf Steiner et de l'approche anthroposophique, il y avait quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle associait non seulement l'énergie terrestre, mais l'énergie cosmique, de façon en associant les deux, à avoir quelque chose qui est une véritable complétude, de façon à ce que la nourriture soit dynamisée et donc extrêmement bénéfique pour l'être humain qui est dans la chaîne de cette logique générale.
Et puis comme ça fonctionne pas mal et que ce mot d'agroécologie qu'après vous avez forgé avec quelques-uns, ben vous êtes parti aussi au Burkina Faso. Vous avez reçu d'abord un stagiaire, Saïbou, et cet homme-là donc se disait « Attendez, moi mon pays, on est en train de crever et tout ça ». Il voyait votre méthode et vous avez pu partir là-bas. Et il y a quand même un homme aussi pour qui vous avez eu pas mal d'admiration, qui a été assassiné, c'était Thomas Sankara. Donc à l'époque, c'était la Haute Volta. Donc le Burkina Faso signifie le pays des hommes intègres. Et cet homme-là, je veux dire, qui proposait carrément de réformer l'agriculture de son pays.
Oui, entre-temps, évidemment, il faut faire la distinction entre l'agriculture bio, qui s'applique à des biotopes qui ne sont pas désertiques, et l'agroécologie, qui a intégré en quelque sorte la détérioration des terres par érosion, le déboisement, etc. Et donc, l'agroécologie convenait bien parce qu'on faisait à la fois de l'agriculture en même temps de l'écologie. Et les méthodes que j'ai proposées dans le Sud, évidemment, intégraient comment reboiser, comment lutter contre l'érosion des sols, bien sûr, la sauvegarde des semences, comment initier les paysans du Sud qui étaient littéralement mis en esclavage par une agriculture de production et de rente. J'accuse cette démarche de les avoir orientés sur la loi du marché en faisant du coton, des arachides, à coups d'engrais, de pesticides, de produits synthétiques, etc., qui font la richesse et la prospérité de gens qui les produisent. J'ai proposé la création d'un centre de formation au nord du Burkina.
D'agroécologie.
Le protocole était que chaque village désignait un représentant du village. Ils venaient se former à Gorom-Gorom, zone semi-aride, et on leur apprenait les méthodes de restauration des sols, etc. À charge pour eux, quand ils retournaient dans leur village, eh ben, ils transmettaient leur savoir à leur communauté.
Et ça fait des petits, hein, un peu partout. Et au-delà, bien sûr, du Burkina Faso.
Absolument. Et là, je suis retourné en Afrique il n'y a pas longtemps. Et il y a eu un congrès même sur l'agroécologie qui se répand de partout, avec l'avantage de libérer les paysans de toutes les dépenses excessives auxquelles ils étaient confrontés. Et j'affirme qu'on les a affamés en les engageant dans la production exportable.
Alors, votre credo aussi, c'est sortir de la surconsommation. Ces deux mots de sobriété heureuse, ils vous sont venus à quel moment ?
Quand, vous savez, que je me suis présenté aux élections présidentielles en 2002.
Quel grand succès.
On est parti dans un peu comme des boy scouts.
Un peu.
On m'a mis la pression, parce que moi, je voulais pas y aller, mais j'avais même peur de m'engager là-dedans. Ouais. Je me suis dit, l'avantage de cette échéance politique, c'est d'introduire dans les arguments de ma campagne des idées importantes. Le féminin au cœur du changement, pourquoi est-ce que les femmes sont subordonnées, l'agriculture écologique, pourquoi éduquons-nous les enfants avec la compétitivité alors qu'on pourrait les éduquer dans la réciprocité, dans la solidarité, ça serait quand même beaucoup mieux que d'en faire des compétitifs qui se détruisent mutuellement. Alors tout ça...
Et la sobriété heureuse est née là.
Et la sobriété, alors c'était appel à l'insurrection des consciences. Quelle planète laisserons-nous nos enfants? Quels enfants laisserons-nous à la planète? Et on est parti là-dessus. Et il fallait quand même passer par le protocole des signatures d'élus. On s'est dit, si on a 3 élus en état d'ébriété qui vont nous donner leur signature, ce sera déjà pas mal. Et puis finalement, on a frôlé les 2 ans, on était étonnés. Et ça nous a donné un coup d'optimisme en disant, mais mince, même des élus qui ont une responsabilité politique adhèrent quand même à notre... Certains nous ont dit, mais vous êtes venus trop tard, c'est dommage, moi j'adhère complètement, vous avez pris trop tard. Et quand on a fait le bilan de ce qu'on aurait pu avoir si on s'y était pris à temps, on frôlait presque 250 signatures, c'est-à-dire la moitié du quota.
Et puis, comme vous continuez aujourd'hui, vous avez lancé aussi des carnets d'alerte. Là, c'est aux éditions des Presses du Châtelet, avec Juliette Duquesne. Bonjour à vous, chère Juliette.
Bonjour, Denis.
Donc, vous avez aussi rédigé ces carnets d'alerte. Vous avez déjà travaillé aussi sur les semences. Et puis là, il s'appelle « Les excès de la finance ou l'art de la prédation légalisée ». Bon, on voit tout de suite où on est. Alors, Juliette Duquesne, effectivement, on voit bien que le PIB, partout, doit être honoré. Et le consommateur est donc lui-même, vous le dites, consommé et consumé donc à la fois. Rappelez-nous quand même la taille du secteur bancaire européen. Qu'est-ce qu'il représente ?
Il est 3,5 fois supérieur au PIB des pays européens. Ça veut dire que la taille du secteur bancaire européen est 3,5 fois supérieure au PIB des pays européens. C'est énorme en fait le chiffre et il n'a pas diminué depuis la crise financière. On aurait pu penser que depuis la crise financière, la taille du secteur bancaire diminue, mais ce n'est pas du tout le cas. Ce sont des chiffres. Alors, il y en a plein, des chiffres pour montrer l'ampleur du secteur financier. Le bilan des 28 banques les plus importantes équivaut à l'endettement d'un peu moins de 200 pays à travers le monde. Donc les chiffres pour montrer l'ampleur du secteur bancaire et du secteur financier, il y en a à l'envi. On peut en trouver plein. Et c'est vrai que c'est assez incroyable. Et c'est un sujet, Pierre l'a peut-être plus traité sur le rapport à l'argent et moi plus sur la finance, mais ça en découle en fait, le rapport à l'argent et le rapport à la finance, les deux sont liés. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé pendant les crises financières et qu'on aborde très peu aujourd'hui. Quand on interroge tous ces spécialistes, on voit bien que si on ne change pas ça, on ne change rien en fait. Si on ne change pas la finance, on ne peut pas changer le reste.
Alors, monsieur Robert, quel est votre plan pour l'emploi ?
Eh bien écoutez, moi et mon parti, nous disons il faut créer des emplois.
N'importe quel emploi pourvu que ça améliore les statistiques. Que les chômeurs nous foutent la paix et qu'on continue à s'en mettre plein les poches.
Ah mais alors moi j'ai une idée, je propose qu'on invente un nouvel emploi.
Ah oui, quoi?
Un métier très facile, il n'y a aucun investissement, une matière première abondante.
C'est pas cher?
Totalement gratuite.
Non, et tout le monde peut le faire?
Tout le monde.
Mais même les chômeurs les excluent.
Surtout un métier qui ne demande aucune qualification, on embauche tout de suite passivement, on résorbe le chômage, on a des statistiques flamboyantes.
Mais alors c'est quoi?
Mangeur de crottes.
Ça c'est vrai, c'est gratuit comme matière première.
Et tout le monde peut le faire.
Tous les spécialistes qu'on a interrogés, les économistes et autres, les acteurs de la société civile, etc., c'est une autre finance, une finance différente qui finance l'économie réelle, ce qui n'est encore pas le cas aujourd'hui, en fait.
Et quand vous parlez d'économie réelle, Patrick Vivray nous rappelait, et vous le faites aussi, que sur le marché d'échange, vous avez 5100 milliards de dollars qui sont échangés tous les jours, mais dessus, il n'y en a que 3 à 4% maximum qui correspondent à de l'économie réelle. C'est-à-dire des échanges de biens et de services, quoi.
Oui, il y a très peu, en fait, l'économie réelle. Alors, c'est assez peu, 12% des actifs dans les bilans des banques européennes représentent des prêts à des entreprises non financières. Donc
c'est vrai que la spéculation, en gros.
Le reste, c'est de la spéculation. Alors, il y a de la spéculation utile, mais c'est de définir... Tout est une histoire de proportions et de limites. Et c'est vrai que c'est un système tellement complexe qu'en fait, on a tendance à dire « je ne comprends pas, donc je laisse tomber ». Alors qu'au contraire, on peut comprendre. C'est des sujets qui peuvent être tout à fait grand public. On l'a vu pendant la crise financière, les gens ont commencé à s'y intéresser. Et puis après, des sujets en chasse d'autres, on n'en parle plus. Et après, le problème, c'est qu'on parle de plein de réformes économiques, des petites réformes, et on ne voit pas les réformes essentielles. En prenant un peu de recul, on voit bien que si on ne change pas ça, on ne change rien.
Il Alors Juliette Duquesne, donc justement, on a besoin aussi d'avoir quelques éléments. On va dire comment on peut faire bouger ce mastodonte, quoi.
Alors c'est les spécialistes que j'ai interrogés dans le livre, hein, des économistes qui donnent des pistes. Alors il y a la séparation des banques de dépôt et d'investissement. Mmh. Donc il y a une loi en France, mais qui du coup est très limitée.
Elle est faiblarde.
Voilà, selon des économistes, elle a même été vidée de son contenu et qu'au final, il y a pratiquement rien dans la filiale. Donc en fait, du coup, les dépôts des citoyens servent toujours de garantie à la spéculation et à des activités qui sont pas utiles à l'économie. Donc il y a cette réforme revient souvent en fait dans la plupart des économistes que j'ai interrogés. Et la séparation des banques de dépôt et d'investissement, c'est vraiment une réforme qui revient et qui a été le cas après la crise de 29. Hein. Donc elle a été mise en place, donc c'est possible de la mettre en place. Ça, c'est une réforme qui revient souvent. Il y a aussi développer la finance solidaire et les autres finances qui existent, qui sont là. Là, on sait plus la dernière partie du livre qui est un peu plus positive pour aussi montrer qu'il y a quand même des choses bien qui se font, ce qui est le cas dans les acteurs de la société civile. Et la finance solidaire aussi, c'est l'épargne solidaire, c'est-à-dire que les gens ont plus l'habitude de tracer leur nourriture, de faire attention à ce qu'ils mangent, de regarder du coup l'agriculture biologique, le label, etc. On a moins l'habitude dans l'épargne. Mais quand on dépose son argent sur un livret, etc., on peut aussi demander d'être...
Une assurance vie, de savoir sur quoi c'est adossé.
Tout à fait. Et ça, les épargnants, tous les gens, tous les jours, ont un pouvoir énorme. Et ça peut être... là, il y a vraiment une marge de manœuvre importante, mais les gens ne sont pas informés.
Comme ça, dans mes conférences, je donne des petites choses rigolotes. Parmi ces choses rigolotes, il y a l'histoire d'un pêcheur qui est là, qui a fait sécher ses filets tranquillement, il est là tranquille. Passe un monsieur sérieux qui regarde le pêcheur, regarde la barque du pêcheur, il lui dit « Monsieur, est-ce que cette barque est à vous ?» Il dit « Oui, c'est à moi. »« Oh, mais elle est petite, avec ça vous ne devez pas pêcher grand-chose. » Et alors, vous pourriez en avoir une plus grande. Et après, vous allez pêcher beaucoup plus de poissons. Et après, vous allez en pêcher tellement que vous allez acheter carrément un petit bateau. Et après, vous allez embaucher des gens et vous allez gagner encore beaucoup plus d'argent. Et après, vous vous reposerez. Et c'est ce que je suis en train de faire.
Le bonheur de la vie, qu'est-ce que c'est pour vous, Pierre Rabhi ?
On ne le trouve pas dans la complexité, on le trouve dans la simplicité. Et je plaide pour que nous comprenions que la simplicité est très efficace. Être efficace en termes d'acquisition du bonheur. C'est-à-dire que le bonheur est une question extrêmement intérieure, extrêmement subjective, si on peut dire, mais pas une subjectivité délirante, mais de l'acceptation de l'ordre qui est dans l'existence. Je pense que si nous étions nombreux à être inspirés par cette nécessité de la fraternité, nécessité de prendre soin de la vie, et si nous étions très nombreux, je peux vous assurer que nous ferions des miracles. Et c'est là qu'il y a de l'espoir, et c'est là qu'on continue à dire, il y a des embryons d'initiatives comme ça, qui sont positives, et qui peuvent changer les choses. Mais je répète, à condition qu'on intègre le changement humain dans le changement des dispositifs que nous prenons.
Pierre Rabhi, pour se quitter, une petite couleur ardéchoise là, qui vous vient, une vision de l'Ardèche depuis votre plateau.
C'est beau, voilà. Et aujourd'hui, je pense que nous faisons trop le sacrifice de la beauté. Et c'est dommage qu'une vie, ça passe à côté de cette beauté.
Un grand merci, et puis à très bientôt. Au revoir, Pierre Rabhi.
Merci beaucoup, Denis.
Une autre fois, nous irons le visiter sur son plateau de l'Ardèche. Il donnera des cours de potager, d'arboriculture. C'est important parce qu'on rentre dans une, pour certains en tout cas, dans de l'autonomie. Pierre Rabhi, donc l'enfant du désert aux éditions Plume de Carotte et les autres ouvrages aux éditions Presse du Châtelet. Restez avec nous, on a encore du décortiquage actualité à faire avec Frédéric Danvé et on va s'intéresser au solaire. I wake up in a cave. You're by my side, I see the chandeliers gleam. A thousand lights, picture on the wall of 96. You and I just smiling like monkeys. I
across the room and see the girl looks like a Greek old-fashioned sculpture. Just wait outside, I'll be there. You gave me some advice, so I owe you now. It must be hard for you to lend me this golden skull. Infinite desire, you show me now. Where are the smiles and laughs again? Here again, with you aside, I only see the black beauty mark on the back. Picture on the wall of 86, there's only me but much younger, straight on the pier. You gave me some advice, so I owe you now. It must be hard for you to lend me this golden skull. Infinite desert, you show me now. Where are the smiles and laughs again? You gave me some advice, so I owe you now. It must be hard for you to lend me this golden skull. Infinite desert, you show me now. Where are the smiles and laughs again?
C'était Girls in Hawaii qui, sur France Inter, nous incitait non pas à manger du cochon d'Inde, on se calme, tout va bien, mais en tout cas au moins l'écouter.
Je suis sûre qu'on aurait dû prendre un architecte, voilà. Je sais pas, une intuition.
CO2, mon amour.
Dites-moi, au compteur, vous, qu'est-ce que vous mêlez comme ampérage au compteur? C'est parce que moi, ça me laisse pas une grande marge de manœuvre, ça saute. Je vous le dis, ça saute tout le temps. Ben, c'est vraiment ou brushing, ou sono, ou jardin éclairé, ou d'âne dans le four, faut jongler, hein. On fait rarement les quatre en même temps. Et même moi j'ai peut-être envie de faire mon babyliss avec un fond de Mozart tout en me disant où est-ce que mon jardin est joli la nuit et miam miam, il y a une bonne bête dans le four. Alors le compteur, vous le gonflez, vous en mettez deux, vous me collez un mec qui pédale dans la cave, mais moi je veux qu'il y ait du jus!
Sur France Inter.
Et du jus solaire, voilà, décryptage de l'actualité, toujours dans CO2 Mon Amour avec vous Frédéric Danhé. Alors certains vont peut-être trouver que la conversion est très tardive, en tout cas aujourd'hui elle est sur le papier, mais quand même c'est pas neutre. EDF veut lancer un énorme plan solaire en France, 30 gigawatts, avec des panneaux entre 2020 et 2035. Donc une opération qui coûterait 25 milliards d'euros d'investissement. C'est pas neutre du tout, c'est vrai qu'actuellement EDF énergie renouvelable est surtout sur l'éolien à 88%, mais quasiment pas donc sur le solaire. Si, quand même un peu sur le solaire et surtout plutôt d'ailleurs à l'étranger qu'en France. Alors, deux raisons majeures. L'énergie dont les coûts baissent le plus rapidement et dont le déploiement suscite moins d'opposition sur le terrain, c'est bien le solaire par rapport donc à l'éolien. Il faut en moyenne trois fois moins de temps pour construire un parc solaire qu'un parc éolien. Qu'est-ce que l'on peut dire donc autour de cette annonce, que c'est quand même un peu un changement fort, quoi, là.
Ah bah, ça prouve qu'effectivement les choses sont en train de changer. Alors, il faut quand même rappeler que donc c'est 25 milliards d'euros, il n'y a pas de financement encore et de toute façon c'est soumis au lancement d'appels d'offres par l'État. Alors c'est important parce qu'aujourd'hui en puissance installée on est à 7,7 gigawatts et on passerait donc à 30 gigawatts, ce qui veut dire qu'en part de puissance installée on passerait de 5 à 20% en France sur le solaire, mais ce qui veut dire en termes de production d'énergie, on passerait de 1,6 à 8%.
Ça paraît peu. Ça veut dire quoi, 1,6 en solaire aujourd'hui, à 8%.
On serait à 8% de production d'énergie solaire, si tout va bien, d'ici, on va dire, 2035. C'est un effort extrêmement important. C'est un effort qui va quand même nécessiter beaucoup de surface. Il faudrait une trentaine de milliers d'hectares pour installer tous ces panneaux solaires, c'est-à-dire un demi-département. Mais EDF, c'est la première fois, introduit l'idée qu'on pourrait utiliser les friches industrielles et commercial, tout ce qui n'est pas utilisé aujourd'hui et qui pourrait faire l'objet d'une transformation en ferme solaire. Donc tout ça va dans le bon sens, réjouissons-nous, mais n'oublions pas pour autant l'éolien. Pourquoi ? Parce que c'est en hiver que les éoliennes sont les plus productives en France, et c'est en hiver où la France consomme le plus d'électricité. Donc le solaire, c'est bien, plutôt vers le sud, et l'éolien plutôt vers le nord, et le mix des deux pourrait nous permettre d'atteindre nos objectifs de 30% de consommation.
Mais on sait, on voit bien qu'elles ne sont pas des masses acceptées sur Terre.
Il faut 8 ans pour faire une éolienne en France, et bien le problème, il faut 3 ans en Allemagne.
Voilà, c'est ça. Et puis donc, quand on regarde les coûts, alors aujourd'hui, le coût du nucléaire, c'est 42 euros le mégawatt pour l'électricité d'origine nucléaire. Et là, maintenant, on arrive à 60, en tout cas en France, pour le solaire. C'est déjà à 15 en Arabie Saoudite.
Ça baisse. Alors, il y a aussi une chose que ne dit pas EDF, c'est que toutes ces énergies intermittentes ont besoin d'avoir des supports de stockage, que ce soit des batteries, ce soit des petits barrages. Et ça, faut pas l'oublier. Et c'est pas forcément financé et envisagé.
Voilà, et en tout cas, il n'est pas question pour Jean-Bernard Lévy de toucher vraiment d'un cheveu au programme du fameux grand carré d'âge, c'est-à-dire le botox des centrales pour les...
Mais il le dit clairement parce que c'est ce qui risque de leur rapporter plus. Et ça pourrait rapporter en plus des sous à EDF, le grand carré d'âge.
Ça, on y reviendra. Assises de la mobilité, ça c'est très très intéressant pour les assises de la mobilité. Est-ce que nous avons le temps d'écouter ? Oui, on va écouter petit son d'Olivier Schneider, qui est le président de la Fédération des usagers de la bicyclette. Un sondage a eu lieu en France sur le vélo. 113 000 personnes, vous avez été 113 000 à répondre. Ce qui veut dire qu'il y a une attente qui est assez forte, et en même temps, on va vous dire que ce n'est pas forcément dans la culture française. Olivier Schneider.
C'est paradoxal parce qu'en France, 75% des déplacements font moins de 5 km. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Et les déplacements à vélo, c'est 3% des déplacements. Alors que 5 km, c'est un quart d'heure, 20 minutes à vélo. Alors du coup, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a un tel écart entre le potentiel et ce qui se passe en réalité? 90% des usagers qui considèrent que c'est trop dangereux aujourd'hui pour les personnes âgées ou les enfants de se déplacer à vélo. Et donc, qu'est-ce qu'ils demandent concrètement? Ils demandent à 80% des répondants et à 85% des répondantes des aménagements séparés. Et ils décrivent par exemple à 90% qu'ils constatent souvent des automobilistes garés sur les aménagements cyclables. Donc d'une part, il faut des aménagements cyclables, mais d'autre part, il faut que ceux-ci, quand ils existent, qu'ils soient respectés. Donc ce qu'attendent les cyclistes, c'est d'une part de la collectivité des aménagements, mais des automobilistes du respect. On a à peine 2 ou 3% des cyclistes qui se considèrent respectés par les usagers motorisés.
Olivier Schneider, quelles sont vos demandes aujourd'hui? Parce que d'un côté, on est très frileux, on a quand même une culture de la voiture extrêmement forte. Heureusement, les transports collectifs ont fait des progrès, en particulier avec les villes qui sont nourries par des tramways. Mais quelle est votre demande?
Nous, on a des demandes dans le cadre des assises de la mobilité autour de 3 axes. Autour de la création d'un fonds national vélo qui permette à l'État d'accompagner les collectivités dans les infrastructures. Donc c'est une première demande. La deuxième demande, c'est d'aller vers une culture vélo. Et donc ça passerait par un apprentissage de la mobilité à vélo dès l'école primaire et même avec la mise à disposition de draisiennes dans les cours de récréation, des maternelles, pour que les enfants aient d'abord l'agilité à vélo et ensuite apprennent à se déplacer à vélo, parce que là on sait qu'ils feront ça toute leur vie et en plus que ça incitera les parents à le faire. Et le troisième axe, c'est tout ce qui est un peu fiscalité, c'est-à-dire le bonus pour l'achat des vélos assistance électrique, l'indemnité kilométrique vélo. Voilà, donc c'est les trois grandes demandes, trois grandes propositions qu'on a dans le cadre des assises.
Et dans ces assises, on a parlé pas mal justement du vélo assistance électrique. Peut-être un ou deux autres points de ces assises de la mobilité aussi qui ont lieu et qui se sont terminées.
Oui, c'est la mobilité du quotidien, vraiment. C'est la mobilité au sein de l'entreprise, via organisée par les entreprises au sein des plans de mobilité inter-entreprise. C'est la mobilité qui serait...
Alors attendez, un plan de mobilité entreprise, ça veut dire quoi concrètement?
Ça veut dire que les entreprises essayent de donner les moyens à leurs employés de venir avec autre chose que la voiture dans l'entreprise. Il y a un plan de mobilité qui est remarquablement fait à Roissy, par exemple. Mm-hmm. Donc c'est du vélo, c'est du transport à la demande, c'est du bus qui vient à la demande, c'est du covoiturage, etc. etc. En fait, la ministre aimerait que le nombre de salariés qui viennent en vélo passe de 500 000 à 1,4 million à la fin du quinquennat. Elle aimerait aussi que les mobilités soient réfléchies à l'échelle de la commune, ce dont on se doute, mais sous l'égide de la région, qui viendrait organiser l'ensemble des transports à l'échelle de la région, de façon au moins à réduire les inégalités territoriales en matière d'accès au transport. La première inégalité étant le coût de la voiture, on ne cessera jamais de le dire. Voilà, mobilité du quotidien, si on peut résumer en deux mots ce qui a été dit.
Et on y reviendra vraiment sur le quotidien aussi, et sur toutes les actions, donc on va dire, positives qui nous font du bien. Donc, au cours de cette année 2018, grand merci Frédéric Danhé, merci à Nicolas Delmas et Juliette Delperroux, à Marion Philippe, notre assistante, à Xavier Pessugia qui réalisait l'émission, Anne Gouzon donc qui nourrit les sites. On se retrouvera tranquillement, nous. Et ben, non, on ne sera pas l'année prochaine, ce sera samedi prochain, ce sera le 30 décembre. Et ah là, oui, on va se offrir, je vais de nouveau vous emmener en baie de Somme avec les chanteurs d'oiseaux. Ça vous avait fait drôlement plaisir. Et puis Jean-Marie Pelt, on a une pensée pour lui parce qu'il nous a quitté pile poil il y a deux ans aujourd'hui. On va le retrouver dans son jardin lorrain. Le répondeur 01 56 40 40 35, vous en avez l'habitude. Et puis demain, après les petits bateaux, et ben, on vous proposera bien sûr La Tulu, mon petit loup, avec des livres encore de Noël. On vous souhaite de très très belles fêtes à vous, aux vôtres et à tous.